France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse. Parents, profs, comment expliquer la perte d'autorité ressentie ou vécue par nombre d'entre nous? Pourquoi de plus en plus de parents ou de profs ont l'impression de perdre en autorité? Comment faire face à des enfants ou des ados tyranniques quand on n'a plus d'autorité sur eux? Plus largement, pourquoi parle-t-on de crise d'autorité dans nos sociétés? Comment expliquer ce puissant désir d'autorité qui traverse nos démocraties? Nous ferons également la distinction entre l'autorité et l'autorité. Éléments de réponse avec nos invités, vos questions et vos témoignages au 01 45 24 7000 et sur l'appli Radio France où vous pouvez laisser des notes vocales. Une émission en partenariat avec le mensuel Sciences Humaines. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Grand Bien vous fasse, Ali Rébéi.
Laetitia, ne me parle pas sur ce ton. Et que ça te serve de leçon! Tu restes dans ta chambre jusqu'à nouvel ordre!
Alors, on va pas se laisser marcher sur les pieds non plus, hein?
Non, non.
Extrait de la série Parents mode d'emploi. Bonjour Héloïse Lhéreté.
Bonjour Ali.
J'espère que ça se passe pas comme ça chez vous.
Ça peut.
Si, ça peut. Vous êtes directrice de la rédaction de l'excellent mensuel Sciences Humaines avec à la une d'où vient le désir d'autorité. Bonjour Bruno Humbeck.
Bonjour.
Habitué de cette émission, vous êtes psychopédagogue, chercheur à l'université de Mons en Belgique au sein de la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation et vous avez récemment publié chez Mardaga la génération de vers consacré aux enfants nés après 2010. Bonjour Didier Pleu.
Bonjour Ali.
Honorable docteur en psychologie du développement, psychologue clinicien, dernier ouvrage paru chez Odile Jacob, L'autorité éducative, une urgence. Le Robert nous donne donc plusieurs définitions de l'autorité. L'autorité, c'est le droit de commander, le pouvoir d'imposer l'obéissance. C'est aussi la supériorité de mérite ou de séduction qui impose l'obéissance. C'est enfin la personne qui fait autorité. Quelle est votre définition de l'autorité, tiens, autour de la table, Bruno Humbeck?
Alors, c'est le pouvoir de contraindre, mais qui est légitimement fondé, soit par la société, soit par la tradition, soit par les religions, en gros. Mais il faut qu'il y ait une forme de légitimation par les institutions, ce qui fait que la crise de l'autorité, c'est d'abord la crise des institutions, mais on aura l'occasion d'en parler.
Héloïse Lhéreté.
Moi, je trouve la définition du Robert assez insatisfaisante, pour une fois, parce qu'elle ne dit pas que l'autorité, c'est d'abord une relation sociale, c'est pas un trait de caractère. Pour qu'elle se manifeste, l'autorité, il faut être au moins deux. Alors, pour celui qui l'exerce, je dirais qu'effectivement, l'autorité, c'est la capacité à se faire obéir sans parlementer pendant des heures, ni avoir recours à la force. Pour celui qui s'y soumet, ça suppose une forme de confiance. C'est plus dans les sphères de l'influence, du respect, que de la contrainte. Le père, la mère, le professeur, le médecin vont avoir ou non, d'ailleurs, de l'autorité parce qu'on pense qu'ils agissent pour notre bien. Il y a une croyance derrière. Le voleur qui nous demande notre portable en nous menaçant, il exerce un pouvoir, mais pas véritablement une autorité. D'où un dernier petit élément de réflexion, peut-être. L'autorité, ça vient du latin augere, qui veut dire augmenter. C'est quelque chose qui est censé élever. Alors, élever celui qui reçoit l'autorité, mais élever aussi celui qui porte l'autorité, qui l'exerce, parce que ça l'englobe dans un système de valeurs plus large que lui.
Vous êtes d'accord avec cette définition que nous donne la philosophe Hannah Arendt dans son livre « Qu'est-ce que l'autorité ?» Elle nous dit en substance que l'autorité, ce n'est pas une chaîne de commandement, mais une croyance collective qui relève de la tradition et du passé.
Oui, c'est-à-dire, ce que veut dire Hannah Arendt, c'est qu'effectivement, celui qui porte l'autorité s'inscrit dans une chaîne humaine qui est bien plus longue que lui. Et c'est aussi, d'une certaine manière, un guide pour les autres, pour ceux qui arrivent, notamment c'est les enfants, qui sont désorientés dans un monde qui est chaotique, qui est illisible. Et parce qu'il est porteur d'une tradition, quelquefois, et dans de nombreuses sociétés aussi, parce qu'il est... il est porteur de sacré, d'une certaine manière. C'est celui qui incarne Confucius ou un dieu. Voilà, il va avoir une autorité qu'on va penser naturelle, mais qui, au fond, est issue d'une longue tradition culturelle. C'est là qu'il y a une dimension, effectivement, de croyance.
Didier Pleu, votre définition de l'autorité ?
Alors, ce serait plutôt une définition de l'autorité éducative. Mmh. Donc, vous avez cité Hannah Arendt. Je suis vraiment un fan parce qu'elle disait des années 60 que l'autorité donc éducative, c'est quelqu'un qui a la verticale. C'est quelqu'un qui établit des règles, surtout que les enfants, les ados, qui interdit, donc qui gratifie, qui est bien sûr respectueux, mais qui peut sanctionner et qui est significatif. Elle parlait toujours attention à la tyrannie de la majorité. Et je crois que l'autorité parentale ou d'un adulte, c'est avant tout, c'est être un influenceur. Et habiter sa parole, influenceur, être un exemple et être aussi conflictuel. C'est-à-dire, ça c'est mon dada, comment on peut augmenter le seuil de tolérance aux frustrations de nos enfants si on n'a pas d'autorité? Mais attention, on va pas retourner dans le trumpisme éducatif. J'ai entendu la bande-son tout à l'heure, là on est en plein dedans avec le ghetto Montsori, c'est le mouvement de balancier, hein, les baffes, les cris, les violences éducatives. Non, l'autorité, elle est ni violente ni permissive.
Bruno Humbeck.
Mais l'autorité peut se passer de violence. C'est le principe même de l'autorité. Quand on fait autorité, on n'a pas besoin de crier. Quelqu'un qui crie, c'est quelqu'un qui manque d'autorité, qui va essayer de compenser en criant. C'est d'ailleurs la grosse difficulté qu'il y a actuellement quand on a affaire à une diminution de la force des institutions, on s'en remet à une autorité qui porte sur les personnes. Et on constate que les gens nous disent autour de nous, bah moi l'autorité, j'aime pas trop ça, mais je veux des figures autoritaires pour nous gouverner, pour prendre des décisions à notre place, parce que ça a quelque chose de rassurant. Ça, c'est lié au fait qu'on n'a plus, et ce qui a été dit tout à l'heure sur le lien de confiance, on n'a plus vraiment confiance dans les institutions, et donc on s'en remet à des personnes à qui on va déléguer cette confiance, qui est relativement dangereux, hein, qui sont des personnes non pas autoritaires, mais investies d'une autorité.
Et quelle est donc la différence entre l'autorité et l'autoritarisme, Héloïse Vérité ?
Eh bien, je pense que la question de l'intérêt collectif est centrale dans la distinction entre autorité et autoritarisme, c'est-à-dire que l'autorité est tournée vers un bien supérieur aux personnes. Que ce soit la personne, effectivement, qui exerce l'autorité, c'est pas seulement sur un plan individuel pour assurer son pouvoir qu'il exerce, et sur le plan de celui qui reçoit l'autorité, qui a le sentiment qu'on agit pour un intérêt supérieur à sa personne.
Didier Pleu.
Oui, une bonne question, parce que l'autoritarisme parental, et c'est ma crainte qu'on y retourne, c'était quand même la défiance et c'était tout contre l'enfant. Donc on est passé après dans un peu tout pour l'enfant, et là je reprends Arendt qui disait qu'il fallait absolument apprendre à l'enfant la réalité et non pas un cours de développement personnel, et ça on y reviendra.
J'ajouterais peut-être que la bonne autorité, c'est aussi celle qui s'exerce à bon escient, c'est-à-dire au bon moment et dans les bons domaines. L'autoritarisme va s'exercer tout le temps, partout, n'importe où, et c'est ce qui le distingue aussi de l'autorité.
Alors, c'est partiellement vrai tout ça, mais on est un petit peu trop, je pense, dans l'idée que l'autorité serait incarnée par quelqu'un ou par un principe, par exemple un principe sacré. En fait, on n'obéit pas à des personnes. Dans la société de tous les jours, on obéit à des règles, à des normes et à des lois. Le gros problème du déficit d'autorité, c'est souvent un manque de clarté. Moi, quand je vois, par exemple, les règlements d'ordre intérieur dans les écoles, ben, ça ressemble à la Déclaration des droits de l'homme. N'essayez pas de gérer le code de la route avec la Déclaration des droits de l'homme, ça ne marchera pas.
Oui, mais Bruno, je ne suis pas d'accord, parce que souvent, dans vos positions, moins de parents, moins d'autorité, moins d'adultes, pour éviter qu'il y ait du fusionnel, de l'hélicoptère. Moi, je crois que les ados, les enfants de maintenant ont besoin d'adultes significatifs. Donc, c'est pas les règles, c'est pas les codes, ce sont les personnes. Alors, est-ce que les personnes influencent, sont des exemples, sont des modèles, sont conflictuelles? Plus de parents, plus d'adultes. Alors, et moi, j'entends partout le discours qui est, ben non, comme avant.
On peut être partiellement d'accord, hein, mais on sait par exemple qu'en milieu défavorisé, ce qu'un enfant entend le plus, c'est « obéir à monsieur et à madame ». Lorsqu'on est en milieu plus favorisé, c'est « obéir aux règles que tu vas être en mesure d'identifier », parce que l'école, bah, c'est un ensemble de règles qui ne sont pas les mêmes que les règles de la famille. Si je lève mon doigt pour demander à parler, je vais le faire à l'école. Les règles, c'est comme le code de la route, hein, ça change d'un pays à l'autre, d'un territoire à l'autre. Le territoire scolaire a ses règles. Il faut qu'elles soient lisibles, intelligibles et accessibles.
Il faut que quelqu'un porte l'autorité.
Et là, les règles vont faire autorité. On peut se passer de policier à tous les coins de rue, si les règles sont claires, si elles sont respectées, si elles sont punies en cas d'infraction, et si elles sont manifestées de manière suffisamment claire pour chacun.
Je ne sais pas si je vais vous mettre d'accord, mais il me semble, j'ai dit tout à l'heure que c'était une relation sociale, qu'il fallait être au moins deux, en réalité il faut être au moins trois, c'est-à-dire qu'il faut une référence extérieure pour que l'autorité fonctionne. Ça peut être des règles, ça peut être un dieu, ça peut être un statut, ça peut être des compétences qui sont unanimement reconnues, mais en tout cas, il faut un troisième terme.
Oui. J'aimerais qu'on s'arrête sur un chiffre, Héloïse Lhérété. En 2021, un sondage Ipsos Soprasteria posait la question suivante. Avons-nous besoin d'un vrai chef pour remettre de l'ordre ? Réponse oui à 79%. Que raconte ce chiffre énorme ? Que notre pays est sensible aux sirènes de l'autoritarisme ?
Alors, il y a plusieurs manières de l'interpréter. D'abord, ça veut dire que quand on jette l'autorité par la fenêtre, ce qui a été fait massivement dans les années 70, elle revient, elle revient tout de suite. Il y a fondamentalement quelque chose comme une demande d'autorité qui est anthropologique. Elle est réclamée. Elle prospère sur le désarroi, l'autorité. C'est-à-dire que quand la société est illisible, quand les règles ne sont pas claires, quand on n'arrive pas à se représenter soi-même collectivement, on a besoin d'une autorité, on la réclame, parce que d'une certaine manière, elle simplifie l'autorité. Elle met de l'ordre, on demande de l'ordre. C'est d'abord ça, hein, au double sens du mot ordre. Elle met de l'ordre, donc elle va simplifier, elle va dire... dorénavant, il faut que ce soit ainsi et on va tous marcher au pas. Donc ça rassure parce qu'il n'y a plus le chaos dans lequel on se sent plongé. Et aujourd'hui, on est dans une période un peu comme ça, illisible, qui suscite l'appel à ce qu'on appelle un homme fort, un sauveur. Voilà. Et ce que disait Bruno est très juste aussi, c'est-à-dire qu'il y a une défiance à l'égard des institutions. L'autorité a besoin de confiance. Les institutions démocratiques ont d'une certaine manière failli à assurer la promotion et l'émancipation des individus. Et sur ce ressentiment qui en découle, va se greffer cette demande d'efficacité qui passe, dans l'esprit de beaucoup de gens, par une autorité forte.
Bruno Beck, même profond désir d'autorité en Belgique ?
Oui, on a fait d'ailleurs la même recherche il y a très peu de temps et on obtient à peu près les mêmes résultats. Et avec en plus une nuance supplémentaire, c'est que c'est le besoin de cette autorité sans contre-pouvoir, hein, ce qui est quand même quelque chose de difficile à entendre dans une démocratie. Et je crois qu'il y a une grosse confusion pour le moment chez les gens, entre le besoin de limite, qui est un besoin fondamentalement humain, d'avoir des structures claires, et le besoin d'autorité. Il faut qu'il y ait des principes qui font autorité. Si les lois font autorité, si les normes font autorité, et si les règles font autorité, on a juste besoin de personnes qui font fonctionner ces lois, ces règles et ces normes.
Didier Pleu.
Non, ce que je voulais dire, c'est que l'autorité, c'est un passage. Hein. Si on prend les concepts freudiens, quand on constate que chez beaucoup d'enfants et d'ados, le surmoi est absent, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autorité interne. Donc on est obligé de passer par une sorte de flic extérieur, d'où la fascination, pour qu'ensuite la personne intègre les interdits. Hein. Quand Bruno parlait tout à l'heure d'une société idéale, je me souviens dans l'État la Révolution de Lénine, on disait que le communisme, ce serait de taper sur l'épaule de l'autre pour dire, disons, tu m'as marché sur les pieds, pas besoin de flics. Nos enfants ados ont besoin, malheureusement, non pas de flics, mais d'une autorité, parce qu'ils sont dans le pulsionnel en ce moment.
Bonjour Gwenaëlle Boulet.
Bonjour.
Rédactrice en chef de Poppy et de Pomme d'Api. Quel est le menu de votre chronique Ma vie de parent vers 11h20?
Ben écoutez, je veux dire pourquoi, au grand désespoir de mes enfants, je suis plutôt à l'aise avec l'autorité.
France Inter. Je me copierai 100 fois, je ne me tournerai plus en ridicule en imitant très mal au demeurant mon professeur. Vas-y.
Grand bien vous fasse.
Et effacez-moi cette moustache ridicule. Parce que les pitreries, les singeries, c'est fini. On n'est pas à la foire à la saucisse ici, on est à l'école.
Et ce matin, on s'intéresse à la perte d'autorité des profs et des parents en compagnie du mensuel Sciences Humaines.
Qu'est-ce que t'as fait, toi ? Tu crois que je t'ai pas vu ? Ah, c'est pas toi ? Tu crois que c'est moi, peut-être, qui a lancé de la purée, là ? Hein ? Je t'ai vu le faire à l'instant.
C'est moi qui commençais.
Bon, tu mets tes mains sur ta tête, tu vas au coin. Allez hop. Au lieu de manger, tu vas au coin. Voilà. T'es content comme ça? Ça te plaît, ça?
Je le dirai à mon père.
Et alors, qu'est-ce que tu veux que ça me foute que tu dis à ton père? Qui c'est ton père, d'abord?
Mon père, c'est le maire, vous allez voir.
C'est le maire? Bon, allez, va t'asseoir, va manger.
Extrait du maître d'école de Claude Berry en 1980 avec Coluche. Petite analyse peut-être, Bruno Beck. Je rappelle que vous êtes psychopédagogue à l'université de Mons en Belgique.
Alors, pour l'analyser, je vais parler d'un autre film, Les Choristes, qui est venu juste pas tellement longtemps après, et qui a démontré après, que le contraire du chaos, c'était pas l'ordre, c'était l'harmonie. Et c'est pour ça que l'idée de faire une chorale, de mettre chacun à sa place, dans un endroit où il se sent valorisé. Et on se trouve effectivement avec l'idée que bah, le fameux action-réaction, hein, qui est un petit peu ce qui est proposé là comme, modèle mis en dérision, bah, ça ne fonctionne pas. Des renforcements négatifs uniquement ça, ce n'est pas ça qui va faire autorité. Il faut qu'on se sente à sa place, qui est ce lien de confiance dont on a parlé tout à l'heure, mais un lien de confiance qui inscrit finalement tout le monde dans le même mouvement.
Héloïse Lhérité, dans Sciences humaines, une double page très intéressante, vous revenez sur les fondements de l'autorité avec 5 grands piliers de l'autorité, le savoir, l'habitude, la peur, le charisme et la confiance.
Oui, d'ailleurs, ce sont 5 piliers qui, aujourd'hui, s'érodent, qui sont remis en question, on pourra y revenir. Le savoir, bien sûr, c'est ce que disait Platon, hein, c'est la vérité fait autorité, les sages qui la détiennent n'imposent pas leur pouvoir, mais s'imposent naturellement. C'est aujourd'hui la compétence, par exemple, aussi, dans le domaine de professionnel, ou la connaissance des œuvres, par exemple, à l'école. L'habitude, nous sommes éduqués à obéir, c'est ce que disait la Boétie, et c'est l'une des grandes réponses à l'énigme de la soumission volontaire. La peur, disait Hobbes, les individus constituent une menace les uns pour les autres, donc on délègue un peu de sa liberté à un pouvoir tout-puissant qui vient nous protéger. D'une certaine manière, Freud aussi parle de la peur d'une autre manière. On se soumet aussi, pas seulement parce qu'on a peur de la violence de l'autre, mais parce qu'on a peur de perdre l'amour d'une figure qu'on admire. Et ça, c'est important aussi, par exemple, dans la relation
le charisme.
Parentale. Le charisme, là, c'est Weber, hein, qui en fait l'un des...
grand sociologue.
Voilà, Max Weber, qui en fait l'une des clés de l'autorité. Le charisme, il est individuel, donc c'est l'idée qu'on reconnaît à l'autre une supériorité. C'est presque de l'ordre du divin. C'est quelque chose qui suscite de la dévotion. Et puis la confiance, dont on a déjà un peu parlé, c'est Anna Arendt, qui a mis en évidence le facteur confiance dans l'autorité avec l'idée que toute autorité doit se fabriquer une légitimité qui, évidemment, aujourd'hui n'est pas toujours acquise.
Je rappelle hein, ces 5 grands piliers, le savoir, l'habitude, la peur, le charisme, la confiance. Bruno Humbeck.
Alors, il faut bien le dire que ces 5, le socle, ils sont particulièrement vacillants. C'est pour ça que l'analyse est vraiment intéressante parce que le savoir, par exemple, sur les réseaux sociaux, le savoir que vous fassiez autorité ou vous fassiez pas autorité, il n'est plus hiérarchisé. Et donc, il n'y a plus de savoir, ou beaucoup moins, qui font autorité. L'habitude, elle a quand même mauvaise presse, et c'est vrai que des routines autoritaires, ça fait penser à des dictatures. On obéit de manière mécanique. La peur, on l'entend actuellement, hein, beaucoup de gens essayent de se dire, mais la peur, finalement, est bonne conseillère. Elle va nous permettre d'accepter des choses qu'en temps normal, on n'accepterait pas. Donc, c'est vrai que c'est un socle qui est fort utilisé, mais qui est fort aussi remis en question. Même chose sur le charisme. Effectivement, si j'ai une personnalité qui, à un moment donné, induit de l'autorité, ça fait partie effectivement des mécanismes autoritaires, mais là aussi il y a tellement de concurrence sur les réseaux sociaux que finalement les personnes charismatiques ne sont pas nécessairement celles qui vont le mieux installer l'autorité. Quant à la confiance, on est dans une vraie crise de confiance actuellement dans la société, mais je le répète, la confiance dans les institutions, c'est pour ça que le retour parfois de l'autorité en disant il faut rendre une force à l'institution, il va dans le mur. Ça ne marche pas parce que on prêche quelque chose qui ne fonctionne pas. Et si on dit qu'il faut que l'école fasse autorité, il faut rendre de l'autorité à l'école en lui proposant de sanctionner de manière autoritaire, il faut retravailler les fondations de ce qui crée l'autorité, c'est-à-dire de nouveau les règles, les normes et les lois.
Didier Pleu, je rappelle que vous êtes psychologue clinicien.
Oui, moi j'ajouterais comme pilier de l'autorité l'authenticité. Hein. Je repense toujours à ces histoires d'adultes significatifs et je vois trop de parents qui n'osent pas. Par exemple, qui n'osent pas imposer une musique, qui n'ose pas dire on va au théâtre, qui n'ose pas dire on va faire tel sport, c'est-à-dire tout est centré constamment, encore maintenant, sur l'enfant et sur son développement personnel. Alors là, je rejoins encore Anna Arendt qui disait non, c'est l'apprentissage du monde, l'autorité parentale. Et si ceux qui apprennent le monde ne sont pas des exemples, pas dans le sens exemplarité, mais dans le sens modèle humain. Là, je voyais mes petites filles récemment, elles ont du mal, bien sûr, avec les écrans, hein, 14 ans et 8 ans. Mais je leur disais, mais moi aussi, j'ai du mal. Si je me mets sur Instagram, je suis obligé de mettre un réveil, parce qu'au bout de 10 minutes, je serai conditionné. C'est ça leur montrer. J'ai du mal avec le principe de plaisir. On est tous des humains, branchés, striatomes, etc. C'est là que je suis un modèle. Mais qu'est-ce qu'on va trouver comme stratégie?
Le striatome, c'est une structure cérébrale impliquée dans...
Le creuset du plaisir, voilà. Chez l'humain. Mais c'est ça qu'on explique à nos enfants. On est un monde de pulsionnel, biologiquement. Donc, j'ai des stratégies. stratégie pour, c'est ça l'autorité. Et là, en ce moment-là, c'est pas une histoire de charisme, c'est une histoire de, oh la vache, lui, il sait ce que c'est, il a des stratégies éducatives.
Tiens, j'aimerais que vous réagissiez à ce message de Marie qui nous écrit, l'autorité c'est d'abord et avant tout l'exemplarité. Oui. C'est la seule certitude que j'ai acquise en 40 ans au service de l'éducation nationale.
Tout à fait, c'est pour ça que j'avais sous-titré un de mes livres, « Lorsque le parent paraît ». Mais pour qu'il se montre, ça fait des années qu'il ne se montre plus parce qu'on est dans une égalité, et là encore une fois avec Anna Arendt, pas d'égalité dans la famille ni à l'école.
Bruno Beck, sur cette question de l'exemplarité.
Alors, effectivement, mais l'exemplarité doit aussi pousser à donner envie de grandir. Ça veut dire qu'on doit montrer aussi qu'on est capable de s'épanouir, de se développer, d'accepter des limites soi-même. Effectivement, un parent qui dit à son enfant « mais arrête d'aller sur les écrans » et qui, au moment où il le dit, est lui-même sur un écran, il ne peut pas être audible pour cet enfant. Donc, la déconnexion est devenue un problème majeur pour notre société, mais c'est un problème familial. C'est toute la famille qui doit se déconnecter.
Et Louise Lerété ?
Oui, sur l'authenticité, nous avons eu l'idée en préparant ce dossier de Sciences Humaines. Sciences Humaines est un journal dont le siège est à Auxerre. Donc d'aller interviewer le sélectionneur de la J Auxerre, ce qui est assez inhabituel chez nous, qui est un... Christophe Pélissier, qui est quelqu'un d'intéressant parce qu'il a une très belle réussite avec cette équipe, mais il n'était pas footballeur professionnel, ce qui est rare à ce niveau-là, il était même entraîneur de tennis. Et donc il nous a dit, la première fois qu'un club de foot professionnel est venu me chercher, je me suis demandé comment j'allais faire. Puis je me suis dit, ils viennent te chercher parce que tu es toi, tu vas donc continuer à fonctionner comme tu fais. Je suis donc restée moi-même avec mes qualités et mes défauts, c'est la meilleure façon de faire, si on veut se faire écouter et respecter, on ne doit pas jouer un rôle. Et je crois qu'effectivement, on est souvent, en tant que parent, en tant qu'éducateur, soumis à tant de programmes éducatifs, d'injonctions, de modèles à suivre, qu'on en perd un lien avec ses propres valeurs. Et ça, les enfants, puisque là on parle plutôt des enfants, ils le sentent et ce sont autant de brèches où s'engouffrer. Donc je pense que l'idée d'être en cohésion avec soi-même est très important en fait pour imposer son autorité.
Alors une enquête Thalys de 2018 indiquait qu'un tiers des enseignants du collège avouaient avoir des problèmes de discipline. Dans votre mensuel, Héloïse Lerété, vous vous demandez d'où viennent les problèmes d'autorité que nous observons aujourd'hui dans nos établissements scolaires et vous repérez trois grands motifs de cette érosion de l'autorité. Tout d'abord, la diffusion de la post-vérité, les exigences égalitaristes et puis la perte de crédit des institutions. Vous pouvez nous expliquer
plus précisément ? Oui, excellent article du philosophe Éric Prérat. Donc je vais me faire son porte-voix. Sur la perte de crédit du savoir et de la vérité, là, je reviendrai sur ce qu'a dit Didier Pleu tout à l'heure en disant que les personnes titulaires d'autorité doivent être des influenceurs. J'ai envie de dire, surtout pas les influenceurs. Il y en a partout. C'est autre chose qu'on attend des enseignants. C'est d'être porteur d'une vérité qui n'est pas une simple opinion. Ce sont des faits attestés. Sauf que pour les élèves, la difficulté dans une société où c'est diffusé non plus le soupçon, mais la suspicion, où nous sommes dans une culture de la suspicion.
Mais l'enseignant peut être le bon influenceur. Qui détient la vérité, la réalité, et qui oppose et qui inclut le doute. Pas un influenceur des réseaux sociaux.
Vous êtes d'accord, donc.
Oui, mais c'est difficile, ça ne va plus de soi. Mmh. C'est-à-dire qu'autrefois, l'idée que le professeur était l'incarnation de la vérité, des œuvres, de l'autorité culturelle, est largement remise en cause. Donc ça, c'est une grande difficulté pour eux, pour les faire. C'est dommage, mais enfin, c'est un fait. Les exigences égalitaristes, elles se sont diffusées massivement, comme je disais, à partir des années 70, mais au fond, même avant, c'est plutôt une bonne chose. Moi, je m'en réjouis qu'il y ait plus d'égalité dans notre société.
Mais ça a contribué à une érosion de l'autorité.
En tout cas, ça contribue à rendre difficiles les relations asymétriques. Voilà. Or, l'acte éducatif repose quand même sur une asymétrie relationnelle.
Et dans cette érosion de l'autorité éducative, en tout cas au sein de l'école, c'est la perte de crédit des institutions aussi.
Voilà, qui touche toutes les institutions démocratiques, qui touche aussi la famille, qui est une institution, et qui a des raisons fondées, c'est-à-dire qu'effectivement, les institutions n'ont pas rempli leurs promesses de libération, d'émancipation, de promotion des individus, et donc les individus ont du ressentiment à leurs égards. Les élèves ne croient plus que le collège, le lycée va leur permettre de progresser par rapport à leurs parents, par exemple. Et donc, les professeurs qui sont porteurs de l'image de l'institution sont massivement remis en cause par les élèves et aussi par leur famille.
Didier Pleu.
Oui, j'ai juste un petit exemple, pensez à ça par rapport à l'égalité. Il y a des choses, par exemple, je voyais des enfants qui étaient très choqués quand ils étaient en consultation parce que je demandais le vouvoiement des enfants en dessous de 10 ans. Ils n'arrêtaient pas de me dire, mais moi je dis tu à ma maîtresse. Voilà une notion d'égalité qui a été faussée. Non, si on commence à dire tu à ses maîtresses dans une culture où le vouvoiement, c'est quand même une distance, c'est des choses basiques. Alors, j'ose pas dire de bon sens, parce que, encore une fois, avec le trumpisme bon sens, ça fait quand même ras des pâquerettes, rhétorique de l'évidence, etc. Mais je pense que c'est toutes ces petites choses-là qui font autorité. Et combien de fois, dans les supervisions avec des enseignants, je leur disais, mais c'est toutes ces choses-là. Quand vous arrivez un petit peu en retard, ou je sais pas quoi, quand vous n'êtes pas en autorité en amont, c'est tous ces trucs sur comment ça soit dans la classe, quelle tenue on a, est-ce qu'on mange dans la classe. Tout ça, ça a été dévoyé parce qu'il y avait de la pédagogie centrée sur l'élève. Voilà.
Gwenaëlle Boulay, vous auriez tutoyé votre institutrice ou votre instituteur ?
Alors moi, j'ai souvenir qu'on tutoyait peut-être au primaire et que par contre, on revoyait au...
Mes
ça dépendait des enseignants. Après, moi, j'ai des enseignants que j'ai tutoyés peut-être et qui étaient très... qui avaient une autorité tout à fait assise et d'autres, voilà. Je ne sais pas si ça repose là-dessus.
Mais ça dépend des tempéraments, c'est ça le problème. Un cheval fougueux, quand il tutoie, il prend le pouvoir, il chosifie l'autre. Non, pas quelqu'un de gentil, d'anxieux et d'empathique.
Ce dont je
mais
me
quand
souviens,
il tutoie, c'est de l'amour.
Ouais, ce dont je me souviens, c'était par contre de la justice. Oui. J'ai des enfants aussi qui ont... ils ont toujours préféré des enseignants qui, certes, étaient peut-être difficiles, peut-être un peu distants, peut-être, mais qui étaient justes. Et moi, j'ai toujours souvenir que la notion de justice chez mes enfants était très importante.
Je ne suis pas sûre qu'il suffise de revenir aux formes antérieures de l'autorité pour assurer l'autorité. La société change, les modes relationnels évoluent, et en fait, l'autorité doit aussi se recomposer et retrouver de nouveaux habits, s'inventer de nouveaux habits dans une société qui a évolué.
Oui, moi, je dirais justice et prévisibilité. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien de pire, je trouve, qu'un enseignant qui, par exemple, change ses règles au fur et à mesure, auxquelles tu ne peux pas t'attendre. Et moi, je me souviens que j'ai des enfants qui préfèrent des enseignants peut-être durs, mais tu sais, t'as joué à la roulette russe sur un truc, t'as pas voulu rendre, la sanction tombe, mais tu la connaissais d'avance.
Le vrai problème avec un débat sur l'autorité, c'est toujours celui-là, c'est « Ah, c'était mieux avant ». Le principe est évidemment pas de revenir en arrière. Il faut savoir que, sur le plan de l'histoire de la pédagogie, les élèves ont longtemps été considérés comme des puits à remplir. Bon, ça a son sens, et ça doit rester en partie cela. Et puis, la pédagogie active, etc., ce sont devenus des feux à allumer. Et puis là, peut-être qu'on a été très loin, peut-être trop loin. Maintenant, ce sont devenus des lumières à éclairer. C'est-à-dire qu'on doit effectivement tenir compte du fait que les élèves vont chercher des connaissances. Ce sont souvent des connaissances mal construites. Leur cerveau ne leur permet pas de construire les connaissances de façon suffisante. Et donc, l'enseignant doit être quelqu'un. Et c'est pour ça que la figure autoritaire, je vais dire uniquement verticale, n'est pas suffisante. On ne peut pas imaginer qu'on va revenir à cela. Attendez. Il faut qu'on puisse considérer.
Moi, quand je parle de retour à la verticalité, des choses comme ça, c'est pas du tout de retour à l'autoritarisme. Là, quand vous dites méfions-nous de ce qui était mieux avant, sinon c'est le complexe d'Orphée, comme disait Michel. On n'a pas le droit de prendre dans le passé ce qui était bon. Moi, c'est ce que je demande. Prenons ce qui était bon et gardons ce qui était bien maintenant dans les pédagogies actuelles, etc. Donc non, et pour reprendre Arendt, elle disait bien que l'autorité sans la tradition, c'est rien.
Et d'ailleurs, dans votre livre Didier Pleu, vous remettez en question très fortement l'autoritarisme des pères fouettards d'avant 1968.
On les a subis, voilà. On sait ce que c'est, les tapes sur les doigts. Là.
Tiens, écoutons un extrait du film La vie scolaire de Grand Corps Malade et Mehdi Idir.
Yanis, tu cherches quoi, là? Tu veux te faire exclure direct dès le début de l'année, c'est ça? Bah, réponds.
Non.
Yanis, t'as traité ton professeur de con?
Pas du tout.
Arrête, Yanis.
C'est lui, il est bizarre. Il finit jamais ses phrases. Là, il nous dit « ne me prenez pas pour un ». Eh ben, moi je réponds.
Ah.
J'ai fait une proposition, il aurait juste pu me dire que c'était pas la bonne réponse.
Ok, Yanis, j'ai compris, t'es très malin. T'as de la répartie. Mais joue pas à ça avec moi. Alors maintenant, t'as deux solutions. Soit t'arrêtes de tout faire pour te faire remarquer. Yanis, regarde-moi quand je te parle. Soit tu continues à faire le malin, mais je te préviens, moi je vais pas te lâcher. Moi je vais pas me dire, je laisse dans son coin à faire ses bêtises. Moi je vais être sur ton dos tous les jours, Yanis.
Eh, franchement, dans le film, ils l'ont embelli, Frida Sourcil. Hein. En vrai, elle est chienne. Les Oumi Salma Hayek, c'est quand même un
attends, niveau, hein. Attends, Yanis, je suis en train de te parler de ton attitude qui a intérêt à vite changer. Toi, tu me parles de Frida Kahlo?
Bah, madame, crois qu'on est à ma cour, on est obligé d'aller.
Bah ouais, alors toi, tu rentres comme ça, sans frapper, tu vois bien que je suis occupée, non?
Je t'avais dit, elle allait nous jeter.
Eh, tu parles pas sur ce ton, alors vous sortez toutes les deux, voilà, et vous attendez dehors. Merci. Donc, à partir de maintenant, quand je te parle, tu changes pas de sujet, c'est clair?
Ok.
Et arrête avec ton petit sourire. Et surtout, t'insultes plus jamais tes professeurs. Parce que si jamais ça se reproduit, ce sera direct le conseil de discipline.
Ok, madame.
Allez, sors.
Zita Enro qui interprète une CPE novice dans la vie scolaire. Bonjour, madame la CPE. Bienvenue.
Bonjour.
Alors,
bonjour à tous.
Madame la CPE, c'est évidemment un pseudonyme, notamment sur les réseaux sociaux. Vous êtes conseillère principale d'éducation en Île-de-France et vous aviez publié un livre éponyme chez First. Vous vous reconnaissez dans cet extrait ?
Oui, c'est notre quotidien tous les jours. Bien sûr. J'ai beaucoup aimé ce film, d'ailleurs.
Rappelez-nous en quelques mots le rôle du conseiller principal d'éducation, souvent comparé à une sorte de ministre de l'Intérieur de l'établissement scolaire. D'ailleurs, on appelait au lycée le CPE, c'est le censeur, non? C'est pas ça? Non, c'est,
surveillant.
Surveillant général, pardon. Le censeur, c'était le proviseur adjoint.
Mais... Ça, c'était à... C'était il y a très longtemps.
Oui, quand j'étais...
On est tous vieux.
On est tous vieux autour de la table, vous savez. Donc on appelait le CPE surveillant général, le surgé. Rappelez-nous un petit peu ce rôle de conseiller principal d'éducation.
Alors en fait, nous, on gère les élèves quand ils ne sont pas en classe. Mmh. Et en fait, on accompagne les élèves tout au long de leur scolarité. Et l'accompagnement passe par tout un tas de choses. Ça peut être par des projets éducatifs, par quand on recadre un élève, quand il fait des bêtises, par de l'accompagnement à la scolarité, dans leur quotidien, en fait. C'est vraiment ça, on gère les élèves quand ils ne sont pas en classe, tout au long de leur scolarité.
Alors, quelle est votre conception de l'autorité et comment appliquez-vous le règlement intérieur au sein de votre établissement scolaire ?
Alors, avant de répondre à cette question, je voulais d'abord dire que j'ai écouté vos débats juste avant et vous avez effectivement relaté tout ce que j'allais plus ou moins dire, à savoir qu'en fait, l'autorité, ce n'est pas de la soumission. Mmh. Et comme vous avez dit tout à l'heure, ce n'est pas de l'autoritarisme. Et en fait, moi, comment je conçois l'autorité, c'est une autorité bienveillante. C'est-à-dire qu'on ne peut pas arriver... vers un élève ou un groupe d'élèves en leur hurlant dessus et en voulant absolument qu'ils obéissent à quelque chose. Il faut les amener à ce qu'on veut faire, mais tout en étant dans la bienveillance. On ne peut pas les contraindre par la force. Ça, c'est important. Mmh. Et effectivement, ils sont très sensibles à la justice. Ça a été dit tout à l'heure. Mais
donnez-nous des exemples, c'est intéressant, madame la CPE. Donnez-nous des exemples de cette sensibilité à la justice.
Par exemple, si je demande aux élèves de sortir du couloir, si je demande à un groupe d'élèves de sortir et j'en laisse d'autres dans le couloir, la première chose qu'ils vont me dire, c'est « mais pourquoi eux, vous leur dites rien ?» Et donc, en fait, ils sont très sensibles à ça. La règle doit être la même pour tous.
Didier Pleu, vous avez un peu tiqué quand madame la CPE a parlé d'autorité bienveillante. Vous, dans votre livre, vous parlez plutôt d'autorité juste. Qu'est-ce qui vous fait tiquer dans cette expression autorité bienveillante ? C'est un oxymore pour vous ?
Non, pas totalement, mais c'est vrai que l'autorité, elle est ni bienveillante ni malveillante, elle est éducative. Parce que dès qu'on parle de bienveillance, par exemple, combien de fois dans les supervisions je vois ça, je vois des adultes qui sont par exemple dans la bienveillance, dans l'empathie, mais ils sont dans une empathie affective. On doit être dans une empathie cognitive quand on est un adulte référent, c'est-à-dire j'ai compris que c'est injuste pour toi quand il y a une punition pour tout le monde alors que t'as rien fait, mais de là à dire « ah bah je ressens la même injustice, c'est dégueulasse, la loi doit être pour tout le monde », dans ce cas-là, on ne fait plus autorité. Parce que aussi, apprendre l'injustice, ça ne veut pas dire qu'il faut... C'est formidable, mais c'est aussi la vie. C'est-à-dire, c'est ça la conflictualité, c'est ça augmenter le seuil de tolérance. Oui, combien de fois je dis à ma petite fille « bah c'est injuste sur ce coup-là bah, », on va voir quelle stratégie tu vas avoir avec l'enseignante pour lui dire, mais c'est injuste, oui.
Madame la CPE, vous êtes d'accord ?
Oui.
Vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Didier
Plot ? Je suis d'accord, oui et non. C'est-à-dire que, effectivement, en fait, il faut expliquer. Quand on dit à quelqu'un, enfin, quand on dit quelque chose à un élève et qu'on autorise quelque chose à d'autres, effectivement, il faut expliquer. Et plus on est dans de la communication, plus l'élève peut comprendre pourquoi tel élève a le droit à certaines choses et pas d'autres. Et on le voit, par exemple, dans l'accompagnement à la scolarité pour les élèves en difficulté ou qui ont, par exemple, qui sont MDPH ou dans le handicap. Il y a des élèves qu'on autorise, par exemple, à rester à l'intérieur parce qu'ils sont très sensibles au bruit et qu'ils ont un PAI pour ça, etc. Effectivement, là, on explique. Donc, l'autorité passe effectivement aussi par l'explication et par la communication.
Mais l'acceptation de l'injustice. Si je dis à ma petite fille de 14 ans, tu as plus de droit que celle de 8 ans, elle va dire que c'est injuste. Mais c'est. J'explique. Madame mais tu restes dans la justice.
Madame la CPE, terminée.
Oui, non, mais je disais qu'effectivement, il faut que les élèves comprennent que ce n'est pas de l'injustice. C'est juste une acceptation différente des choses. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, effectivement, tout le temps leur dire oui à tout. Et certains élèves, on doit dire oui pour certaines choses et pas d'autres. Mais dans ce cas, il faut expliquer pourquoi. Et qu'ils comprennent que ce n'est pas de l'injustice. C'est juste différent.
Restez avec nous, madame la CPE. On continue le débat juste après la chronique parents mode d'emploi de Gonel Boulay.
S'inter.
C'est que sur les reproches, vous. Hein. On est là pour tout, pour tout, pour tout.
Grand bien vous fasse.
Si on peut aider des parents à mieux élever leurs enfants, après tout, pourquoi pas.
Salut. Merde.
Alors vous, Gonel Boulay, vous êtes plutôt Didier Pleu ce matin. Hein. Vous êtes plutôt à l'aise avec.
On s'est vu juste avant.
Avec l'idée d'autorité.
Bah oui, au risque d'être un peu à contre-courant de pas mal de choses qui se passent actuellement sur la planète parentalité. En effet, je n'ai pas de grands soucis avec cette notion. Si l'idée est de poser des limites à la toute-puissance de nos rejetons afin de ne pas en faire des petits tyrans, futurs grands tyrans capables de jouir de la vie en ignorant les autres, on en a un peu pas mal sur la planète en ce moment. Bon, bah franchement, ça me va. Or, que l'on ait 2, 10, 18 ou 49 ans, le principe est le même. Pour pouvoir bien vivre avec nous-mêmes et en société, nous avons tous besoin de nous confronter à certains principes de réalité. Moi, par exemple. Bon ben, je peux toujours me dire que j'ai le sex appeal et l'attractivité de Julia Roberts et que je peux, quand je veux, me taper Adrienne Brody et Bradley Cooper. Pour mieux habiter ma vie, mieux a valu se confronter assez tôt à la réalité pour me consacrer à des projets amoureux plus ajustés. Vous voyez l'idée un petit peu des sortes de barrières libératrices.
Oui, bon, on voit bien. Le cadre de l'autorité, c'est donc pour vous un cadeau que l'on fait à ses enfants.
Mais oui, quand vous refusez à votre gamin de manger 2 paquets de bonbons d'affilée, de jouer sans fin sur sa console, bien sûr que sur le coup, il vous déteste, vous le privez de son plaisir. Moi-même, je détesterais qu'on me retire mon plat de pâte carbonara avant la fin. Mais au fond, c'est hyper sécurisant pour lui. En face, il trouve un adulte qui a de l'expérience et qui sait, oui, à peu près, ce qui est bon pour lui. C'est hyper apaisant. Alors qu'imaginez, vous avez 4 ans, à 15 ans ça marche aussi, vous piquez une crise de nerfs pour avoir un truc et là... Vous voyez vos parents paniquer, se tortiller dans tous les sens, voire s'engueuler pour savoir si, oui ou non, ce serait bien ou pas d'acheter encore un nouveau jouet, de vous imposer de faire vos devoirs. Pire, ils vous laissent sans cesse choisir. À vous, c'est hyper angoissant. Non, moi j'ai toujours été convaincue que décider un certain nombre de choses pour son enfant, ce n'était pas être un dictateur, mais c'était juste lui rendre le service de la décision.
Et Didier Pleu boit du petit lait. Oui, donc oui, après, ce n'est pas toujours si facile à mettre en pratique, Gonel.
Non. D'ailleurs, j'entendais la femme qui hurlait, je peux être littéralement ça. Non, donc bien sûr, à ce stade, je tiens à préciser pour ceux qui comprendraient mal mon propos, qui se diraient que finalement, une bonne trempe à l'ancienne, c'est ça l'autorité. Mais si, j'entends elle l'a dit sur France Inter. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Hein. Faire preuve d'autorité, ce n'est pas recourir à la violence, même si parfois j'avoue que ça nous démange. Cela demande même écoute, souplesse et remise en question. Après, si une juste autorité n'est pas toujours si facile à exercer, je pense que c'est parce qu'au fond de nous, on est un peu dans le fantasme de la relation idéale avec nos enfants, remplie de rires, de câlins, de complicité. On a tellement envie qu'ils nous aiment. Et ça, parfois, ça nous empêche de prendre certaines décisions et de tenir bon. Le second frein, je pense, c'est qu'on n'est pas toujours clair sur ce qui motive nos décisions. Est-ce pour combler une angoisse, répondre à une projection? Est-ce par héritage, par habitude? Est-ce qu'au contraire, c'est pour répondre à des valeurs profondes auxquelles je crois? Moi, franchement, les fois où j'ai fait de la merde éducativement parlant, hein, où je bascule vers l'autoritarisme hystérique, ou au contraire, je tiens pas une position, en gros, c'est parce que le fondement de mon acte n'était pas très clair. Alors, afin de poser les cadres les plus justes possibles, on peut donc prendre cette petite habitude de s'interroger sur le pourquoi du comment, et ça aide à choisir ses combats. C'est tout bénef pour eux et pour nous.
Réaction de Bruno Mbeck.
Alors, je pense que c'est philosophiquement, tout est dit, notamment dans la deuxième partie. C'est-à-dire, le but du jeu, c'est de faire une réflexion suffisamment aboutie à propos. Et Madame la CPE a très bien expliqué, quand elle dit, moi, j'explique les règles. Elle n'a pas dit, je justifie les règles. Je m'explique, et on a besoin de la cohérence de la règle. C'est ça qui va donner le sentiment de justice. Si les règles ont un bien fondé, si elles sont, par exemple, dire, allez vous coucher parce que je suis crevé. Ben, ça a du sens, d'un point de vue parental. On n'est pas en train de dire, vous êtes insupportable, allez dans votre lit. Non, je suis fatigué, j'ai besoin de me reposer, j'ai plus envie de vous voir pour le moment. C'est beaucoup plus sain pour un parent d'agir comme ça.
Madame la CPE ?
Oui.
Oui, vous vouliez réagir ?
Oui, non, effectivement, je voulais réagir par rapport au cadre. Les élèves, en fait, ont besoin d'un cadre. Et c'est très important, et c'est même c'est partout dans les familles. Plus le cadre est lisible et structuré, plus les élèves sont en confiance, les enfants ou les élèves, et plus ils comprennent effectivement la limite, même s'ils ne l'acceptent pas. Parce que, comme vous avez dit, quand on leur dit non, ça ne fait pas plaisir. Mais le non est aussi pour leur bien. Mmh. Et en fait, nous, on revoit ça, effectivement, on ressent ça aussi dans le collège. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément d'accord pour une règle. Mmh. Mais voilà, on l'explique et le cadre aussi les sécurise. De toute façon, on ne peut pas leur dire oui à tout, c'est contre-productif.
Elle fait réagir la chronique de Gonzalette Boulay. Oui. Didier Pleu.
Bah, quel bonheur, cette chronique. Si vous avez tout compris, c'est amour et frustration. Surtout, ce que vous avez compris, c'est que devant la toute puissance infantile qu'on n'a jamais voulu voir, hein, sans autorité, l'enfant devient tout puissant, on ne peut faire contrepoids qu'avec cette fameuse tolérance aux frustrations qui est le principe de réalité. Donc vous avez bravo, il faut me l'envoyer par fax.
Mais je crie aussi beaucoup. Hein.
Merci beaucoup Gonzalette Boulay. Tous les épisodes de Parents Mode d'Emploi sont à retrouver sur l'appli Radio France et n'hésitez pas à la diffuser largement sur les réseaux sociaux.
France Inter.
Quand Elliot est né, j'ai fait le serment de ne jamais lever la main sur lui.
Grand bien vous fasse.
Il le sait d'ailleurs. Mais comme le pied au cul ne rentre pas dans cette catégorie, je garde dans certaines circonstances une petite marge de manœuvre.
Ali Rebbi.
Et ce matin, on s'intéresse à la perte d'autorité des profs et des parents avec le mensuel Sciences Humaines.
C'est toi, maman ? On est très content de te voir.
J'en ai plus qu'assez de vous !
Mais qu'est-ce que tu fais ?
Je confisque tout ça. Ça se voit, non ? Tous les paquets et toutes les décorations, tous les cadeaux confisqués jusqu'à de nouvel ordre. Chaque fois que c'est Noël, il faut que vous vous bombardiez de boules, que vous hurliez, que vous mettiez le feu, et moi j'en ai assez.
Alors on sera privé de Noël ?
Maman, arrête, tu délires.
C'est la dernière année où Douy peut croire encore au Père Noël.
Quoi ?
Si vous vous comportez bien, et ça jusqu'au jour de Noël, alors on verra. Il se peut que le Père Noël décide de passer. Dans le cas contraire, pas de cadeaux. Et toutes les petites réjouissances de Noël seront annulées.
T'auras pas le courage de nous faire ça. Tu bluffes, j'en suis sûr.
Alors peut-être que Loïs, la mère, hein, dans la série Malcolm, aurait besoin d'un peu de guidance parentale. Bonjour François-Benoît Vialatte, bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes psychologue clinicien, chercheur en neuropsychopathologie et vous avez cofondé l'Institut PI-PSY, l'Institut pour la pratique et l'innovation en psychologie appliquée. Et vous proposez donc des séances de guidance parentale aux familles démunies face à des enfants parfois tyranniques. C'est ça, François-Benoît Vialatte ?
Tout à fait, exactement. Des séances de guidance parentale, c'est-à-dire des séances dans lesquelles on transmet des méthodes éducatives efficaces qui sont issues de la recherche en psychologie et en neurosciences cognitives.
Alors comment se passent ces séances de guidance parentale et en quoi consistent ces habiletés parentales que vous transmettez ?
Alors les habiletés parentales, ce sont des compétences qui vont être transmises en groupe. C'est un groupe dans lequel les membres vont pouvoir exprimer leurs difficultés. On va leur communiquer des méthodes, mais sachant qu'il n'y a aucun modèle prêt à porter en psychologie qui pourrait marcher pour tout le monde. Donc au cours de la séance, on va chercher des ajustements pour que les parents puissent arriver à appliquer ces méthodes en les adaptant au contexte dans lequel ils se trouvent, à leur propre tempérament et celui de leur enfant.
Et cette guidance parentale est inspirée des thérapies comportementales et cognitives, c'est ça ?
Oui, tout à fait. En fait, le principe, c'est qu'on va amener l'enfant à changer des comportements qui sont inadaptés, inappropriés, mais qui répondent à des besoins de l'enfant. Parce que quand un enfant adopte un comportement, ça n'est pas par hasard. On identifie le besoin sous-jacent et on va remplacer le comportement par un comportement qui est plus socialement adapté, tout en aidant l'enfant à gérer ses émotions et à essayer de devenir un adulte qui a un comportement plus pro-social.
Vous pouvez nous donner un exemple concret ?
Je vais donner un exemple concret. Prenons un enfant qui passe son temps à courir dans tous les sens quand c'est l'heure de passer à table. Ça peut provenir de plusieurs raisons. Ça peut être un enfant qui a des difficultés à gérer le stress. Ça peut être un enfant qui a ce comportement pour provoquer l'autorité des parents. Ça peut être un enfant qui a du mal à gérer les transitions. Il est en train de s'amuser et puis d'un seul coup, il doit passer à table, ce qui nécessite de stopper le jeu qu'il est en train de mettre en place. Mmh. Dans tous les cas, c'est un enfant qui a une difficulté sur la gestion des émotions. Si on veut l'amener à faire cette transition, il va falloir que le parent lui serve de cortex préfrontal accessoire, c'est-à-dire qu'il lui transmette les capacités de gestion des émotions, de cognition que l'enfant n'a pas. Et qu'il soit capable à la fois d'être ferme avec l'enfant, de communiquer de façon efficace, donc se mettre à portée de l'enfant, s'assurer que le contact est établi pour que l'enfant l'entende, et puis ensuite le guider vers le comportement qu'il doit adopter. Et là, on va avoir des stratégies d'ajustement qui dépendent de l'enfant. Par exemple, le parent pourrait effectivement prévenir l'enfant à l'avance, ajuster son comportement pour la demande, c'est-à-dire prendre l'enfant par la main, se montrer doux avec lui et le récompenser une fois qu'il est à table. Et puis progressivement, le parent va changer ce comportement, il va retirer les aides qu'il apportait à l'enfant, parce qu'en fait l'enfant a une récompense en elle-même au fait d'être venu à table, puisque ses parents vont être agréables avec lui, vont lui donner de l'attention. Et donc progressivement, l'enfant va apprendre à gérer ses transitions. Et ce qui est important, en fait, c'est d'ajuster ce qu'on appelle la fenêtre de tolérance, c'est-à-dire que le but, ça n'est pas que l'enfant devienne un enfant roi, donc on ne lui laisse pas faire ce qu'il veut, et ça n'est pas non plus de traumatiser l'enfant. Donc en fait, on va confronter l'enfant à la frustration en jaugeant pour que l'enfant soit dans une zone où il est capable de tolérer cette frustration, et tout en n'étant pas non plus dans une zone où il se laisse porter.
Et Didier Pleu boit encore du petit lait vous écoutant. Bruno Humbeck.
Alors, je trouve que c'est absolument superbe comme intervention. C'est ce qu'on appelle introduire de la conscience réflexive. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus efficace et c'est le contre-exemple de Super Nanny. Super Nanny, elle vient vous montrer comment on doit faire et puis elle s'en va et elle ne vous a donné aucune technique, aucune méthode, alors qu'on sait effectivement ce qu'elle utilise, qui sont parfois des techniques très proches de ce qui est expliqué. De nouveau, là, on accompagne, on explique et là, ça devient tout à fait efficace.
Et je termine avec quelques mots issus de votre livre « L'autorité éducative » Didier Pleu, où vous parlez de l'adulte significatif privilégié. L'idée, c'est de devenir non pas une autorité castrante, mais positive, et je vous cite « Voilà ce que j'ai vécu, ce que je vis, ce que je déteste, ce que j'aime, c'est ma réalité, et je la partage pour que toi, enfant ou adolescent, tu construises la tienne. »
Tout à fait, j'ai bien aimé votre intervenant quand il dit que le parent peut être le cortex de son enfant. C'est lui qui réfléchit à sa place quand l'autre est pulsionnel, bien sûr.
Merci beaucoup François-Benoît Vialat, merci Madame la CPE, merci Didier Pleu et merci Bruno Humbeck, merci Héloïse Lérété. L'excellent numéro de Sciences Humaines consacré à l'autorité est disponible en kiosque.
Grand bien vous fasse, un podcast France Inter.